and let's make America great again.
We just need to remember, there's nothing we cannot do if we do it together. Together.
L'élection américaine est un Far West où tous les coups tordus, les coups bas, les coups d'éclat sont permis. Je m'appelle Magali Barthès. Depuis 2001, pour LCI, je regarde et je me passionne pour ce pays où décidément rien ne se passe comme ailleurs. Avec mes invités, je vais vous faire vivre cette campagne au plus près. Nous allons nous mettre dans la peau d'un électeur américain. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. À quoi ressemblera l'Amérique de Joe Biden? En cette fin d'année, c'est l'heure des comptes, de tirer le bilan de ce Far West électoral que nous ont fait vivre les États-Unis. Le moment de se tourner aussi vers 2021. Qu'est-ce qui nous attend jusqu'au 20 janvier, le jour de la passation de pouvoir? Quel avenir après la Maison-Blanche pour Donald Trump? Comment Joe Biden va-t-il pouvoir réconcilier ces deux Amériques que tout oppose? Beaucoup de questions et deux invités. Aujourd'hui, bonjour Jean-Éric Boisnard.
Bonjour Magali.
Professeur, spécialiste des États-Unis. Vous aviez prédit la victoire de Joe Biden quand
pas
personne
prédit,
n'y croyait.
Annoncé.
Annoncé, vous avez raison. On conseille d'ailleurs votre biographie du nouveau président, donc élu aux éditions du Nouveau Monde. Et puis également avec nous, l'homme qui peut se vanter de connaître personnellement Donald Trump. En tous les cas, allez, de l'avoir interviewé. Bonjour André Berkoff.
Bonjour.
Journaliste et éditorialiste, très heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui. On ira aussi dans un instant à Washington retrouver notre correspondante Catherine Gentil de Cannes-Côte qui nous dira notamment comment se prépare cette cérémonie d'investiture inédite. Mais d'abord, la parole est à Joe Biden. Le 14 décembre, après près de 40 jours de guérilla judiciaire, les grands électeurs l'ont donc officiellement désigné vainqueur. Et dans le discours qui a suivi, il s'en est pris violemment à Donald Trump.
Donald Trump a défendu une position extrême que nous n'avons jamais vue auparavant. Il a refusé de respecter la volonté du peuple, de respecter l'état de droit et refusé d'honorer notre Constitution. Nous savons désormais que rien, ni même une pandémie ou un abus de pouvoir, ne peut éteindre la flamme de la démocratie. Maintenant, il est temps de tourner la page, comme nous l'avons toujours fait, et de nous rassembler.
Allez Jean-Éric, prenons un peu de hauteur. Quels sont les enseignements finalement qu'on peut tirer de ce feuilleton post-élection? Que la démocratie a tenu finalement, sans violence, dans le calme.
La démocratie a tenu, les institutions sont solides, effectivement. Alors on lit, certains commentateurs expliquent qu'elle aurait été malmenée, cette démocratie, en réalité non. Faire des recours, c'est quelque chose de normal dans une démocratie, c'est même très rassurant de savoir qu'on peut faire des recours après une élection. Après, c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de recours, puisqu'on a quand même été à une cinquantaine. À un moment, il faut savoir s'arrêter aussi. Mais oui, les institutions sont très solides. Depuis 1787, rappelons-le, c'est toujours la même constitution aux États-Unis qui a quand même été un petit bijou de création sur le plan institutionnel. Et cette constitution, à peine 7000 mots, qui arrive justement à réunir les Américains et leur permettre de se projeter d'un Américain, d'un président à l'autre, même si ce président est disruptif, va vraiment très loin dans la façon de contester, eh bien, ça fonctionne. Après, il n'y a pas grand-chose à retenir à part ça. Je crois, au contraire, il va falloir très vite gommer le côté « je ne suis pas content » à la fin pour essayer de rebondir sur l'après.
Alors justement, André Berkoff, il refuse toujours de concéder sa défaite, Donald Trump. Est-ce qu'il le fera un jour, d'après vous?
Bon, écoutez, qu'il le fasse ou pas ne changera rien, en deux mots, hein. Résumons quand même la chose du point de vue légaliste et constitutionnel. Les grands électeurs ont voté. Ni vous, ni moi, ni Jean-Yves Brallard ne savons exactement pour qui ils ont voté, puisque les enveloppes sont scellées jusqu'au 6 janvier. Le 6 janvier, le Congrès, effectivement, on décèle les enveloppes et on dit, bon, tout dit, effectivement, on ne va pas se raconter des histoires, que Joe Biden a gagné. Maintenant, je crois, alors contrairement à ce qu'on croit, à ce que disait mon ami Jean-Éric, c'est que je ne crois pas du tout que ça va être la réconciliation et embrassons-nous Folleville tout de suite. Loin de là. Je pense que ce qui s'est passé, alors, mon opinion personnelle, mais je suis loin d'être le seul à penser, je pense qu'il y a eu une des plus grandes fraudes de l'histoire des États-Unis. Je le pense vraiment, je pense. Je veux dire, on a vu un certain nombre de choses. J'explique. Simplement, je crois que le fait que le vote par correspondance, qui a été fait à cause du Covid, mais moi je suis très heureux que de ce point de vue, la France, par rapport à l'Amérique électorale, l'Amérique c'est le Zimbabwe. Nous, depuis 1975, nous interdisons le vote par correspondance parce qu'il est générateur de fraude.
Mais, peut-être, mais il y a eu des recours, en effet, comme le disait Jean-Éric, tous ces recours ont été rejetés
les uns après les autres. Ont été rejetés par les juges en place, et par les juges en place qui sont pratiquement tous, soyons clairs, républicains. Démocrates.
Les juges nommés par Donald Trump ont...
Ce que je veux dire simplement, c'est que on a été très frappé. Alors vous allez me dire, c'est des meetings, ça change pas. Moi, j'ai été très frappé quand même que tous les meetings de Biden, il y avait 3 pelés et 6 tondus. Et les meetings de Trump, vous allez me dire, ce n'est pas un meeting qui fait l'élection, et je suis d'accord. Il n'empêche que pour le fond du problème, je crois que l'Amérique dite trumpiste, appelons-le comme on veut, je crois qu'il a vraiment un fossé très profond dont on va sentir les conséquences, pas tout de suite, mais après. Après, il appartient à Biden de raccommoder les morceaux. Mais surtout, moi, ce que je pense vraiment, c'est qu'on va le voir encore une fois assez vite, c'est que Biden, il va durer 6 mois, 8 mois. Biden, pour moi, c'est le cache-sexe de Mme Kamala Harris et de tout ce qu'il y a derrière Mme Kamala Harris.
Attendez, on va rester juste un instant sur les fraudes dont vous parliez, parce que je voulais vous montrer juste une vidéo que Donald Trump a mise sur son compte Twitter, où il explique justement, pour qu'on entende son argumentaire, et on y reviendra juste après. Regardez.
Quelque chose s'est passé. Certains États ont dépouillé le vote par correspondance à toute allure. Il y a tous les ingrédients de la fraude. Des gens morts ont voté, des bulletins ont miraculeusement réapparu. D'autres ont été rajoutés au milieu de la nuit. C'est une honte. Les Américains méritent de savoir la vérité.
On le disait quand même, les recours ont été rejetés. Et même la Cour suprême, où quand même Donald Trump a nommé 3 juges conservateurs, ont refusé de s'emparer du dossier.
Écoutez, d'abord, la Cour suprême, elle avait tout intérêt à dire, regardez, nous ne sommes pas inféodés à Trump. Évidemment, Trump a nommé 3 personnes, mais c'est vrai. Donc, on va dire surtout pas. Mais je vais vous dire une chose. Alors là, c'est des faits. Si vous allez me dire, ça concerne 2 ou 3 personnes. On a vu que M. Joe Frazier, ancien champion du monde de boxe, mort en 2011, a voté pour ces élections. Et vous avez plusieurs personnes, je ne veux pas faire un compte, il y a eu quand même, dire qu'il n'y a rien eu dans cette histoire, d'abord vote par correspondance, ensuite vote par mail. Or, moi j'ai écouté le président de Dominion, la fameuse, vous savez, les machines à voter
de
Dominion.
C'est le système de machines à voter qui est mis en cause par Donald Trump.
Voilà, qui a été, pas seulement par Donald Trump, par Rudy Giuliani, par ses avocats, etc. Ce que je veux dire, c'est que il y a une conférence du président de Dominion, il y a 3 ou 4 ans, qui expliquait comment, effectivement, on peut jouer avec les mails. Et alors, je ne ddis pas que ça s'est passé, je ne vais pas aligner les preuves, je dis simplement que ce qui s'est passé va laisser des traces profondes, et je ne crois pas du tout que ça va changer comme ça.
Il y a un soupçon, vous, d'après vous, Jean-Éric ?
Il y a une légende très belle aux États-Unis que je raconte dans mes cours de politique américaine, dans lequel on a cette constitution qui a été écrite avec ce premier président Washington élu à l'unanimité. Le deuxième président John Adams était ce qu'on appelle un fédéraliste. Il voulait donc que l'ensemble des États soient dans le même giron. Et le président encore d'après était un antifédéraliste. Et c'est la première fois que le pouvoir passait pacifiquement d'un homme à son opposant politique sans qu'il y ait une guerre. C'est ça la beauté des États-Unis en réalité. C'est un moment où on est le plus déchiré. Et cette élection entre Adams et Jefferson, et je vous ramène là bien sûr au début de cette République, était le pire des moments de la République. Bien pire que celui qu'on vit en ce moment avec Donald Trump, nous a montré que c'était solide, ça pouvait continuer. Alors on peut refaire le match. Mais à un moment, et c'est ça la beauté des institutions, c'est quand on s'arrête après le coup de sifflet final. Et coup de sifflet final, il y a eu à de nombreuses reprises. Et qu'on rentre au vestiaire, même si on pense qu'il y a eu fraude ou que ceci, que cela, et qu'on dit, bon, j'ai perdu, on passe pour le bien du pays, à la suite, et on pacifie. Or, on ne s'arrête pas, et il y a même encore des élus, notamment Mo Brooks au Congrès, qui appellent à l'insurrection. C'est quand même très grave. Parce que l'insurrection, c'est quand on dit au Congrès d'inverser le vote et donc de prendre au peuple qui a voté son droit de vote et de faire autre chose avec quelques élus. Alors, ça n'arrivera pas au bout, bien évidemment. Mais là, on est dans le gravissime quand même. Et ce qu'il faut regarder de près, et c'est ce qu'il faut condamner.
Il y a 68% des républicains, c'est un sondage CBS de la mi-décembre, qui pensent en effet que l'élection présidentielle a été volée à
oui,
Donald Trump.
Juste un mot par rapport à ça. Je ne vais pas aller aussi loin qu'Adams et Jefferson, mais je rappelle quand même que quand il y a eu Gore-Bush, Gore, sur la couverture de Time, on a retrouvé la couverture de Time, était élu président. Pendant 26 jours, Gore était considéré comme président. C'était l'époque de la Floride et compagnie.
Absolument.
Bien. Il y a eu ça. Ce qui se passe là, c'est au-delà. Moi, on verra. En tout cas, l'histoire de la fraude ne va pas s'arrêter là, même si Biden est élu prêt de serment, etc. Ça ne va pas. Or, le vrai problème est là. Où, effectivement, il n'y a pas de preuve flagrante. Et bon, les choses vont se raccommoder plus ou moins. Où il y a, ce que je pense, et encore une fois, je suis loin d'être le seul, il y a des preuves flagrantes qu'il y a eu, effectivement, je dirais, une espèce de coup d'État informatique et autres. Et là, parce que ça ne va pas s'arrêter, ça, c'est clair, qu'il y a un tas de gens qui vont continuer à enquêter. Et encore une fois, le problème, c'est que, effectivement, le Covid a tout changé. C'est vrai que si, d'ailleurs, on avait parlé avec Jean-Yves Brana et d'autres, les chiffres de Trump, personne ne peut dire qu'ils n'étaient pas bons.
Si vous permettez une remarque sur ce que vient de rendre très rapide, la grande faillite de Donald Trump, quand même, c'est d'avoir permis qu'on arrive à ce système d'élection. Il a quand même été au pouvoir pendant 4 ans. Il avait donc en main la possibilité de réformer même la façon de voter lui-même par son gouvernement ou par les gouvernements républicains, et ce qu'il n'a pas fait, pour pouvoir mieux le contester par la suite.
Oui.
Cet esprit de division est quand même à mettre à son actif, ou plutôt à son déficit, et ça, c'est quand même regrettable, quoi qu'on en dise,
même si on pense
de façon très sincère que ça s'est passé, et c'est votre cas, André, et c'est le cas effectivement de beaucoup de républicains, il y a quand même à remarquer que c'était lui qui était au pouvoir.
Sauf que ce qu'il a fait pour l'Amérique, quand même, ne l'oublions
pas.
Il a fait beaucoup de choses.
On va se projeter, Arnaud. Instant, je vous propose sur 2021, parce que évidemment le 20 janvier à midi, en effet, ce sera le coup de sifflet final et Joe Biden sera donc investi président. On va tout de suite partir d'ailleurs pour la capitale fédérale. Bonjour Catherine, comment va se passer cette cérémonie inédite sur fond de pandémie avec un président sortant qui refuse la défaite? Est-ce que d'ailleurs Donald Trump sera là?
Écoutez, c'est la question à $100 parce qu'il avait même menacé avant les élections, de quitter le pays si jamais il devait perdre. Donc, pour l'instant, on n'entend plus parler, mais c'est vrai qu'il l'avait dit. Il y a une autre rumeur qui est qu'en fait, il partirait en Floride. Vous savez qu'avant, il était domicilié à New York, mais évidemment, c'est une ville tellement démocrate qu'il a dit qu'il était extrêmement déçu par New York, sa ville de naissance, et maintenant, il est domicilié en Floride. Donc, l'autre rumeur, c'est qu'en fait, il partirait en Floride et qu'il y resterait, qu'il ne serait donc même pas là pour le 20 janvier. Autant dire qu'avec Donald Trump, évidemment, tout est possible et qu'il prend sûrement aussi un malin plaisir à laisser un grand point d'interrogation sur ce qu'il ferait et sur le fait qu'effectivement, il ne serait pas à la cérémonie d'investiture et qu'il ne s'est même pas engagé à recevoir ensuite à la Maison-Blanche Joe Biden et sa femme, comme la tradition le veut, où le président sortant reçoit le nouveau. Donc vous voyez, c'est un grand point d'interrogation. Est-ce qu'il va jusqu'à la toute fin ne rien dire et puis justement laisser le suspense, ce qu'il adore, il faut bien le reconnaître, ou alors est-ce qu'à la fin, il va finalement rentrer dans le rang, mais ce serait quand même un peu une première pour lui. Est-ce qu'il va respecter la tradition? Pour le moment, c'est impossible de le savoir.
Suspense maximal. Il y a certains médias qui envisagent un comeback de Donald Trump en 2024. Est-ce que vous y croyez, André?
Non, j'y crois pas. C'est-à-dire que là, il joue son va-tout en ce moment. Pour, encore une fois, le meilleur et le moins bon. C'est pas, il n'y a pas de jugement là-dessus, mais je ne le vois pas du tout. Je rappelle qu'il a 74, 75 ans. Il aura 79 ans, vous allez voir, Biden a 78 ans.
C'est ce que j'allais vous dire.
Mais très sincèrement, je ne le vois pas. Je ne vois pas qu'il revienne en 2024. Je pense, en revanche, si on veut juste projeter, je pense que ce qu'on appelle le Trumpisme, mais ça me paraît un... Je pense que l'héritage... Enfin, si Trump disparaît, je veux dire, en tout cas de la scène politique, l'héritage de Trump va rester. Parce que le vrai problème, et il n'est pas seulement américain, le vrai problème, il est très intéressant. C'est le grand clivage qu'a illustré Trump, mais pas seulement, et qui est partout, entre mondialistes et souverainistes. Il est là. Et la gauche et la droite, telle qu'on la connaissait, c'est fini. On voit bien ce qui se passe chez les démocrates. On voit bien regarder ce qui se passe. Ocasio-Cortez, vous savez, la représentante démocrate, dit il faut que Chuck Schumer et Nancy Pelosi disparaissent. La vieille garde démocrate, on n'en veut plus. On est les nouveaux. Ça y est, ça commence à venir. Donc, simplement, c'est là-dessus. Et je crois que le legs de Trump, souverainiste, comme le legs d'un certain nombre dans le pays européen, ça non seulement va demeurer, mais va croître et prospérer.
C'est vrai qu'on a vu encore les partisans de Donald Trump mi-décembre défiler à Washington, ces électeurs qui sont persuadés en effet qu'on leur a volé l'élection. On a un pays qui est fracturé. Comment Joe Biden, qu'on entendait tout à l'heure, peut arriver à réconcilier ce pays ?
Alors, il y a, c'est vrai, je partage vraiment beaucoup de ce qui vient d'être dit à l'instant. Le schéma politique américain a quand même beaucoup changé avec une polarisation très forte et c'est vrai, une vraie falaise entre les deux camps. Chaque camp étant lui-même fracturé avec une extrême droite et démodérée sur le Parti républicain, une extrême gauche et démodérée sur le Parti démocrate. Or, Joe Biden, qui est lui à l'hypercentre, on va dire assez simplement, est quand même un homme politique hyper chevronné, hein. Ça fait 50 ans qu'il a été élu pour la première fois dans le Delaware, en 72 au Sénat. Il a été biberonné au Sénat et en réalité, ce qu'il va faire, c'est réapprendre au pays à revenir à une fonction politique plus traditionnelle d'avant même Obama. C'est-à-dire que le Congrès va reprendre la direction des opérations et décider des lois. Il ne va pas gouverner par décret, comme certains l'annoncent un peu trop rapidement. Ce qui va satisfaire les républicains, qui ont envie aussi d'avoir cette mainmise sur les lois, qui va satisfaire aussi à la fois l'extrême droite et l'extrême gauche qui sont au Congrès représentés, parce qu'ils vont pouvoir agir de manière politique. Et le politique est quand même un sens très noble et très important qui passe par le débat. Et Joe Biden va faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire du réseau, puisqu'il connaît très bien ce Sénat, et il va travailler avec les deux camps modérés, le camp républicain et le camp démocrate modéré. Et entre les deux, c'est vrai qu'il devrait arriver à naviguer assez facilement, comme il l'a fait quand il était vice-président avec deux grandes lois, ça va très vite. La première, c'était la loi de finances pour sortir de 2008, et la seconde, c'était l'Obamacare qu'il avait réussi à faire passer avec une opposition très forte des Tea Party à l'époque, souvenons-nous-en. Et donc, il va continuer de cette façon-là. Les premières nominations, l'ensemble des nominations qu'on a jusqu'à maintenant, nous le montrent et satisfont d'ailleurs le camp républicain tout autant que le camp modéré démocrate et énervent foncièrement les trumpistes et l'extrême gauche démocrate qui n'en sont pas pour le coup très contents.
Oui, mais je crois que, ce schéma m'apparaît, qui est tout à fait légitime, m'apparaît dépassé pour deux raisons. C'est que là, Jean-Éric fait peut-être bon marché de ce qui s'est passé, de ce qui a paru, pas depuis 6 mois, mais depuis quelques années, effectivement en Amérique, mais c'est vrai ailleurs, encore une fois, moi je regarde un peu c'est l'extraordinaire méfiance envers Washington. Joe Biden est l'apparatchik, le bureaucrate typique, pas fil de Washington. Donc effectivement, il saura faire. Il va à son carnet d'adresse, mais les Américains, et beaucoup d'Américains en tout cas, ne veulent plus de ça. Les manœuvres, qu'est-ce qui s'est passé avec Trump ? Trump, pardon, il y avait ce qu'on appelle le « deep state », et c'est vrai, l'État profond, et on ne le voit pas qu'en Amérique, hein, on le voit un peu partout, les complexes militaires d'Israël, CIA et compagnie, etc. Or, beaucoup d'Américains ont adhéré à Trump, pas seulement parce qu'il avait une chevelure bœuf-carotte et les yeux en trompette, c'est parce qu'ils pensaient qu'effectivement, ce Washington, ce marigot, vous savez, il disait « drain the swamp », assécher le marigot. Ça, c'est quelque chose qui va rester. Donc, même si Trump, et même si Biden a l'habileté, et il l'a, je le reconnais, de savoir effectivement être centriste. Je crois que d'un côté, on revient, son extrême démocrate va jouer, et de l'autre côté, ce qu'a laissé, encore une fois, j'aime pas Trump, ce qu'a laissé Trump, va quand même jouer. Alors, de quelle façon, j'en sais rien, mais on ne peut pas mettre sous le boisseau que Washington, en tant qu'appareil, que monde, est très, très, très ressenti comme quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark.
Je dois dire que je souscris à ce qui vient d'être dit totalement. Et d'ailleurs, ça va se jouer la deuxième mi-temps en 2022, où particulièrement au Parti républicain, on va avoir partout des oppositions entre cette extrême droite et, ces modérés républicains pour essayer de remplacer, parce que certains appellent le trumpisme, moi aussi j'ai beaucoup de réserves avec cette chose-là, mais je crois qu'effectivement, et je ne nie pas que Biden est un apparatchik de Washington.
Allez, le sujet numéro un, en tous les cas, auquel va devoir s'attaquer évidemment Joe Biden dès qu'il va arriver, c'est évidemment la pandémie. Il a mis au point ce qu'il appelle une task force, en recrutant notamment le docteur Fauci. De son côté, Donald Trump, lui, est lancé dans une véritable course contre la montre pour faire vacciner un maximum d'Américains avant de quitter le pouvoir. Lui, dont la gestion a été quand même très critiquée, joue la fin de son mandat sur cette question. Sortez-moi ce fichu vaccin, hein, c'est ce qu'il disait sur Twitter. Il a mis une pression vraiment maximale pour l'obtenir au plus vite.
Ce vaccin permettra de vaincre le virus et de retrouver une vie normale. La pandémie a peut-être commencé en Chine, mais nous la ferons cesser ici, aux États-Unis. Cette opération a été la plus grande réalisation de l'industrie médicale dans l'histoire américaine.
Allez, on repart à Washington, retrouver Catherine. Est-ce que le vaccin, c'est quelque chose que les Américains mettent au crédit de Trump? Est-ce que cette question, d'ailleurs, est-ce qu'elle reste aussi politique qu'elle l'était pendant la campagne? Est-ce qu'elle divise autant toujours le pays, cette crise sanitaire?
Ben oui, écoutez, par définition, vous l'avez dit, c'est un objet politique maintenant dans la société américaine, à la fois la pandémie et puis le vaccin. Alors, si on est démocrate, ou pour la plupart de la population, évidemment, les chiffres sont tellement impressionnants. Vous vous rendez compte qu'on est quand même, on a dépassé les 3000 morts par jour. Et comme le rappellent certains médias américains, ça veut dire que c'est plus que l'attaque du 11 septembre et que c'est plus que l'attaque aussi de Pearl Harbor dont c'était l'anniversaire il y a encore quelques jours. Donc ce sont des chiffres effectivement très symboliques pour les Américains et ça veut dire que c'est une bataille qui a été perdue puisqu'on la compare à l'attaque du 11 septembre, à l'attaque de Pearl Harbor. Donc ça, c'est sûr qu'il y a énormément d'Américains qui en veulent à Donald Trump d'avoir traité la pandémie d'une manière qui paraissait désinvolte, même si au bout du compte, proportionnellement, il n'y a pas eu forcément plus de morts aux États-Unis que dans certains autres pays. Mais donc, c'est vrai que les chiffres sont tellement impressionnants que ça restera d'une manière indélébile sur le mandat de Donald Trump. De l'autre côté, c'est vrai qu'on lui reconnaît d'avoir mis notamment énormément d'argent pour aider la recherche, qui fait qu'aujourd'hui, en effet, on peut vacciner en masse les Américains, qu'on espère avoir, même en quelques semaines, vacciné 20 millions de personnes, c'est-à-dire les personnes âgées et le personnel de santé. Donc ça, indubitablement, ça restera au crédit de Donald Trump. Mais c'est vrai que le nombre de morts est tellement impressionnant que ça, c'est aussi l'élément qui restera dans les mémoires de cette année 2020.
Merci beaucoup, Catherine. Qu'est-ce que Joe Biden va changer dans sa crise, dans sa gestion de la crise sanitaire? Qu'est-ce que ça va changer, son arrivée?
D'abord, rappelons que c'est plus que le 11 septembre, tous les jours. C'est tous les jours, c'est pas sur l'ensemble, c'est absolument atroce. Ce que ça va changer, c'est la communication. C'est la prise de conscience, de le dépolitiser aussi. Que le masque soit devenu un objet politique, c'était juste contre-productif. D'ailleurs, Donald Trump, s'il a voulu défendre vraiment l'industrie américaine, demande à tout le monde de porter un masque et il remettait les gens au travail. Vous voyez, c'est là où on n'a pas compris. Quand on veut aller trop loin dans l'idée que le gouvernement n'a pas à jouer sur les vies des gens, parce que c'était liberté contre obligation sanitaire, et c'était très compliqué, hein, parce que dans le climat américain, c'est quand même une vraie notion qui divise les gens. Biden va essayer de dépolitiser. Et c'est ce qui fait en expliquant que dès les 100 premiers jours, tout le monde portera le masque parce qu'à un moment, il faut remettre les gens au travail. Il dit la même chose que Donald Trump en réalité là-dessus. Hein. Il dit qu'il faut absolument qu'on reparte sur les écoles pour les enfants, que les gens repartent au travail, mais il le fait de façon beaucoup plus apaisée. Pour le reste, c'est vrai que le vaccin est une aubaine puisque c'est arrivé très rapidement et c'est vrai que c'est à mettre au crédit de Donald Trump.
C'est un succès de Trump.
Ah oui, c'est un succès de Trump, indéniablement.
Il a mis quand même des milliards dans la balance.
Ça aurait été un autre président, on lui aurait accordé ce succès, il n'y a pas de raison de ne pas l'accorder à Donald Trump, bien entendu.
Ah, c'est déjà la fin, malheureusement, de cette discussion. Merci, Jean-Éric Brana. Et allez, je rappelle votre biographie de Joe Biden, un bon cadeau pour ces fêtes de fin d'année. Merci, André Bercoff, d'avoir été avec nous. Comptez bien sûr sur LCI pour vous faire vivre le 20 janvier cette investiture avec Catherine Gentil. En attendant, eh bien, très bonne fête à tous. Merci de nous avoir écoutés. Merci aux équipes techniques pour la réalisation de ce podcast. Dites-moi ce qui vous a plu ou les sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on s'arrête. Ce rendez-vous, on va le construire ensemble. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à nous noter et à partager si ce podcast vous a plu. Bye bye et à très vite pour un nouvel épisode de Far West.